franceinter.fr. La revue de presse de Frédéric Pommier.
Bonjour Patricia, bonjour Pierre, bonjour. Et bonjour à tous. Il y a un an, l'horreur à Paris. C'est le titre à la une de Paris-Normandie, qui, comme quasiment tous les journaux ce matin, revient sur les tueries qui ont endeuillé Saint-Denis. Et le 11e arrondissement de Paris, c'était donc le 13 novembre 2015, des kamikazes qui se font exploser aux abords du Stade de France, des fusillades aux terrasses de plusieurs cafés, puis un carnage au Bataclan, bilan 130 morts, des centaines de blessés, des dizaines de milliers de personnes traumatisées. 130 morts et un pays plongé à la fois dans l'effroi et la sidération. Comment avons-nous résisté, s'interroge cette semaine Politis. Comment avons-nous résisté à la douleur, résisté à la peur, résisté au danger, tout comme aux mesures entamant pour certaines les libertés publiques. Comment avons-nous résisté? Car oui, nous avons résisté. Et un an après cette journée qui restera gravée à jamais dans la mémoire collective, la France vit donc deux jours de recueillement, ainsi que le relève la dépêche du midi. 13 novembre, la France n'oublie pas, confirme la Nouvelle République, tandis que les autres journaux de la presse régionale donnent à lire les témoignages de ceux qui ont été touchés de très près par le drame. Dans l'éclair, rencontre avec Laurie, une jeune béarnaise qui se trouvait dans l'un des restaurants mitraillés de la rue de Charonne. Aujourd'hui, elle peine à reconstruire sa vie. L'angoisse ne la quitte jamais. Dans l'Ardennais, rencontre avec le père d'Amandine, blessé par balle au Bataclan. Elle a, dit-il, un moral d'acier. Et elle poursuit sans relâche sa rééducation. Dans l'Union, rencontre avec le fils de Manuel, qui habitait la Marne et qui a lui été tué auprès du Stade de France. Son fils aujourd'hui confie avant tout sa colère. Ces attentats auraient-ils pu être évités? En tout cas, tout est fait pour en empêcher de nouveau, comme en témoigne La Provence, qui nous explique de quelle manière la police, la gendarmerie et la justice sont adaptées à la menace. Sécurité, l'état de guerre, commente Le Quotidien, un dossier spécial également à lire dans Ouest France, qui évoque notamment le calvaire des blessés et propose également une interview de Sting, qui ce soir sera sur la scène du Bataclan. Retour de la musique dans une salle devenue le symbole d'un terrorisme aveugle et fou. Cependant, ce concert, certains le vivent très mal, à l'instar de Joseph Antichevitch, qui a perdu sa femme au Bataclan. Il le dit dans Libération, que le Bataclan rouvre aujourd'hui ses portes, le rend complètement dingue. « Je tourne en rond depuis une semaine », dit-il. « Cette idée que des gens puissent faire la fête à l'endroit où ma femme a été assassinée, je ne peux pas le supporter, j'ai la rage. » Il voulait d'ailleurs se pointer à l'ouverture avec une pancarte « Bon concert, amusez-vous bien ». Ses amis l'en ont dissuadé. « À quoi bon, laisse faire ». Les gens sont passés à autre chose, calme-toi. Mais tous, non, ne sont pas passés à autre chose, car pour les survivants, il y a aussi souvent le sentiment de culpabilité, comme chez Blé Mokono, qui se trouvait devant le Stade de France le soir du 13 novembre, tout près du kamikaze qui s'est fait exploser à 21h20. Alors qu'il accompagnait son fils, cet ex-agent de sécurité entrevoit deux des terroristes quelques minutes avant qu'ils n'actionnent leur ceinture explosive. L'un d'eux a attiré mon attention, il transpirait. On s'est croisés en se frôlant l'épaule, raconte-t-il à VSD. Et depuis, l'impression qu'il aurait pu déjouer les plans des kamikazes l'obsède. Lorsque la première explosion survient, je revois cette dame blonde à terre, je la prends dans mes bras et m'aperçois qu'elle a des projections de chair humaine sur la nuque. Un an après, dit-il, elles sont encore là. Ces images, touchées à une clavicule, Blé Mokono vit donc douloureusement le fait que d'être très grand et très costaud n'a servi à rien, à strictement rien ce jour-là. Culpabilité telle que tous ses muscles ont lâché, au point de ne plus pouvoir se déplacer qu'à l'aide d'un fauteuil roulant, le plus souvent enfermé dans le noir, au rez-de-chaussée de son pavillon de Cergy. À la fin du mois, il sera de nouveau hospitalisé dans le but de parvenir à le faire sortir de son fauteuil. Et ce n'est que tout récemment qu'une expertise a été diligentée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.
Et un an après ce choc du 13 novembre, les autorités restent sur le qui-vive.
C'est ce que nous explique Christophe Cornevin dans les colonnes du Figaro. Des autorités toujours sur le qui-vive, car la menace est plus élevée que jamais. C'est ce dont témoigne une source ministérielle expliquant que le groupe État islamique est aujourd'hui en perte de vitesse, déstabilisé au point d'avoir de plus en plus de difficultés à poster même ses vidéos de propagande. Et dès lors, face au tarissement du flux des volontaires dans les zones de combat, l'organisation cherche à recruter sur le sol français, soit des compatriotes, soit des résidents prêts à frapper sur place. Et pourquoi pas des femmes. L'hypothèse est désormais devenue plausible, car les postulantes sont nombreuses, ainsi qu'on peut le lire dans le reportage glaçant que publie David Thompson sur le site Les Jours. Il a recueilli le témoignage de Léna, une revenante du groupe État islamique. Elle a passé un an en Syrie, avant de revenir en France, un peu déçue par ce qu'elle a rencontré là-bas, mais toujours attachée, très attachée à leur idéologie meurtrière. Aujourd'hui, cette jeune femme de 22 ans, entièrement voilée, mais qui se maquille et qui porte à l'épaule un petit sac Chanel, Léna donc, est placée sous contrôle judiciaire, mais elle a été laissée libre dans l'attente de son procès pour association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, libre, mais obligée de suivre des séances de déradicalisation, comme on dit, sauf que pour l'heure, elle n'en a suivi qu'une seule et que cette dernière n'a eu strictement aucun effet. Léna continue de dire que l'attentat contre Charlie Hebdo était vraiment l'un des plus beaux jours de sa vie. « J'aimerais tellement que ça se refasse, dit-elle, et j'espère que la prochaine attaque ciblée, ce sera une sœur qui la fera, glaçant, je vous le disais. » Comme l'est aussi le récit qu'elle fait de l'histoire de cette autre Française rencontrée en Syrie, une mère de famille qui a perdu son mari, mais également deux fils de 12 et 14 ans, qui combattaient donc dans les rangs de l'organisation terroriste. Mais cette mère était heureuse, et même elle pleurait de joie quand on lui a appris que ses enfants étaient morts. Heureuse, car selon elle, ils étaient morts en martyrs et avaient donc filé tout droit au paradis. Suite à cela, elle a envoyé une lettre au leader du groupe afin de lui proposer de mourir elle-même en kamikaze. Et c'est donc à lire sur le site Les Jours.
Un site qui aujourd'hui fait part de son inquiétude pour l'un de ses journalistes.
Hier, à la mi-journée, Olivier Bertrand a été arrêté par la police turque à Gaziantep, dans le sud du pays, où il était en reportage. Il était accompagné d'un photographe turc et tous les deux ont été emmenés dans un commissariat de la ville proche de la frontière syrienne. Le photographe a ensuite été relâché. Mais pas le journaliste français, toujours retenu, sans aucune explication. Une garde à vue totalement illégitime et qui relève de l'intimidation, selon Reporters sans frontières. Une arrestation qui s'inscrit dans le contexte de purges post-coup d'État raté du mois de juillet dernier. Des purges que s'employait précisément à relater Olivier Bertrand. Les Jours exigent évidemment sa libération immédiate. De fortes tensions en Turquie et de fortes tensions également aux États-Unis depuis l'élection de Donald Trump. C'est ce que décrit Libération ce matin, précisant que les actes racistes se multiplient depuis sur le territoire depuis mardi dernier. Donc une étudiante de 19 ans qui se fait arracher son voile par un homme. Des graffitis haineux contre les musulmans et les noirs. Des enfants réunis dans le réfectoire d'un collège et qui scandent « Construisez le mur !» en référence à la promesse de Trump d'en bâtir un tout au long de la frontière avec le Mexique dès le lendemain du jour du scrutin. Sur Twitter, le hashtag « Jour 1 dans l'Amérique de Trump » recensait des dizaines de témoignages d'Américains et d'Américaines ayant subi insultes, menaces, voire agressions du fait de leur couleur de peau, de leur religion ou de leur orientation sexuelle. Enfin, toute la presse revient sur la mort annoncée hier de Leonard Cohen. Le Figaro se désole de la disparition d'un prince du désespoir. Mort à 82 ans, il aura marqué plusieurs générations et restera comme l'un des plus grands poètes, chanteurs, à la voix si reconnaissable, à une et un dossier de 13 pages passionnant dans Libé qui évoque des chansons profondes, mélancoliques, qui ont accompagné la vie d'admirateurs en osmose. Osmose avec un homme qui pouvait certes être violent, anxieux, dépressif, mystique, mais qui était surtout littéraire, spirituel, amoureux des femmes qui lui ont inspiré ses plus beaux succès. Une voix qui restera longtemps gravée dans nos mémoires.
Au mois de mars l'année dernière, mon cher Frédéric Pommier, vous nous annonciez sur l'antenne la naissance de Thelma.
Oui.
Une petite fille née d'une maman qui s'appelle Aurélie.
Oui.
Et d'un papa qui s'appelait Mathieu, qui est mort au Bataclan.
Oui.
Eh bien, Aurélie Sylvestre a écrit un livre qui vient de sortir le 14 novembre, qui est publié chez Lattès, qui est un livre magnifique et je crois vous a plu aussi.
C'est un livre bouleversant. Mmh. Qui raconte avec une finesse éblouissante et avec une douceur éblouissante également, l'arrachement et la décision de continuer à vivre.
On en parlera plus amplement tout à l'heure à 9h05. Merci Frédéric.